Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
On est là jusqu'à 1h du matin, c'est l'after. Il est 23h03 ici à Doha. Il est 1h03 à Saint-Maur-des-Fossés chez Kevin Diaz, bien sûr. Non, 23h03 chez Kevin Diaz à Saint-Maur-des-Fossés et 1h03 ici au 4. Voilà. J'ai inversé. Bon, de toute façon, on est jusqu'au bout de la nuit et l'after est là jusqu'à 1h du matin en heure française. Kevin est là, Daniel est là et donc nos invités. Le Sénégal est dans le studio de l'after, Daniel, avec Moustapha Hamas et Amadou. Donc on vous dit, nous, on était au match. C'était pas un grand match, hein. Genre en termes de football.
En termes de football, en fait, c'est quand c'est ton équipe qui joue.
Tu t'en fous,
tu veux dire.
Ouais. Je comprends.
Parce que c'est le résultat. C'est parce que tu vois, c'est au niveau émotionnel, c'est vraiment très, très, très.
Ah, non, mais c'est pour ça. Le match était sympa pour ça. C'est les renversements de situation, le but de Koulibaly juste après le but équatorien. Ouais. Ça, c'était fou.
Et surtout qu'en fait, nous, on avait peur d'une chose parce que le Sénégal, souvent, c'est son propre adversaire. Mmh. Et on savait pas dans quel état d'esprit ils allaient aborder ce match. Parce que souvent, quand il faut faire un gros résultat et qu'il faut y aller à la castagne et tout, des fois, il y a de la retenue un peu, il y a de la peur un peu. Mais elle a vu qu'il n'y avait aucun calcul à faire.
Voilà, la Castade, ils y sont allés, parce que physiquement, ils ont bouffé les Équatoriens.
Oui, mais parce que là, ils l'ont fait.
Ils se sont surtout créés rapidement des occasions.
Oui.
Je pense vite fait, ils ont même montré qu'ils étaient supérieurs, alors que c'est pas forcément le match que j'attendais. Parce que techniquement, j'avais bien aimé les Équatoriens depuis le début de la compétition, et je me suis plus dit, si les Sénégalais peuvent leur faire mal, c'est dans la transition, une récupération, les attaquants rapides, on va essayer de les trouver. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Dès que Gueye a eu son occasion au début de partie, la frappe qui passe juste à côté. Ça, plus d'autres situations, plus... Je disais, mais qu'est-ce que font les Équatoriens? Soit c'est eux qui sont timorés, il n'y avait pas un énorme pressing du Sénégal, donc ce n'est pas ça qui les a fait déjouer. C'est juste que le Sénégal, aujourd'hui, était plus entreprenant. Ouais. Et les autres ne savaient pas vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu le cul entre deux chaises, on défend, on ne défend pas. Ouais. Même leur public, nous, on était avec eux. Il se trouve que nos billets étaient avec les Équatoriens. Il lançait des chants, dont celui dont on a parlé, que j'adore, mais ça partait et ça s'éteignait. Ouais. Ils étaient là avec leur si c'est pouet, si c'est pouet. Et puis, ça partait pas complètement, finalement. Comme ils regardaient tous, ouais, le nul, ça va bien nous suffire. Ouais, le nul, ça va bien nous suffire.
Finalement, les supporters sénégalais faisaient plus de bruit, en fait. Ils étaient moins nombreux.
Ils ont égalisé. Et quand ils ont égalisé, je crois qu'ils se sont dit, bon, bah, allez, c'est bon.
C'est fini.
L'histoire, elle est bouclée. Et quand ils l'ont pris dans la foulée, là, c'est les a tués.
Mais ça les a tués. Mais parce que les Sénégalais, en fait, émotionnellement, en fait, je pense que ce que les supporters au stade ont mis, c'était. Parce que moi, j'ai rarement autant stressé pour un match, alors que ça fait très longtemps que je regarde des matchs, mais j'étais tellement dans l'émotion que j'avais même les larmes qui montaient aux yeux, tellement c'était parce que j'avais peur qu'on soit pas à la hauteur. Mais quand j'ai vu,
et par rapport à quoi? Parce que tu disais l'occasion, elle est trop belle, on a les moyens d'aller en huitième.
On a les moyens d'aller en huitième, mais souvent cette équipe, c'est des fois tu sais pas, elle va te surprendre. Et surtout le coach, on savait pas quelle composition il allait mettre, parce que depuis le début de la compétition, il mettait un milieu entre guillemets de bétonneur avec trois milieux défensifs, et ça ne crée pas de jeu. Et le Sénégal avait un problème de transition entre son milieu et son attaque.
Ouais, mais est-ce que t'avais quelqu'un pour faire ça?
Je pense que c'est le mouvement qui crée ça. Si t'as pas un joueur pour le faire.
Oui, parce que ça, c'est un problème un peu récurrent, c'est cette tendance un peu à être un peu défensif. Et c'est vrai que ça manque d'un milieu.
Non, mais ajoutez autre chose dans le contexte général, les gars. Sadio Mané n'est pas là. Quand tu prends le 11 de départ, à l'exception de Koulibaly, qui est un joueur. Voilà, on peut dire, ce niveau défenseur central,
tu peux
chapeau 1.
Tu peux ajouter Gueye, parce qu'en
Mendy,
fait,
le gardien, ouais.
L'idée, c'est l'histoire récente, c'est que tu prenais du gardien, Mendy, ouais. Koulibaly, Gueye, Mané, t'avais des joueurs qui jouaient dans des clubs de très haut niveau. Sauf que Mendy, il a fait un premier match, tu t'as flippé, tu dis, c'est qui? C'est le cousin qui est venu.
Ouais.
Koulibaly, bon, bah, lui, ça va, il tient là, lui, ok, pas de problème.
Costaud.
Gay, ça dépend des jours, mais enfin, il répond quand même. Et devant, il n'y a plus personne.
Ouais,
donc là, tu perdais beaucoup.
Donc ça pouvait faire un peu équipe Ligue 1 quand même.
Tu perdais quand même beaucoup en qualité, quoi.
Tu perdais beaucoup en qualité, mais c'est pas juste en qualité, parce que Sadio Mané, sa présence, ça
va au-delà. Ça va au-delà,
ça donne
confiance. Il rassure les mecs avec un regard. Il dit, mais si, tu peux, allez, vas-y.
Exactement. Et puis, il amène l'équipe, surtout, quand on l'a vu à la dernière CAN, il a porté l'équipe sur son dos parce qu'il était en mission. Il a décidé que, les gars, on y va, on va gagner. Et quand il est comme ça, quand t'as en général un lieutenant, et des fois, par exemple, pour faire une comparaison avec le PSG, des fois, il manque de ça. Quand il est sur le terrain, les joueurs se subliment. Et il a manqué, et les joueurs étaient un peu perdus, mais maintenant que tout le monde sait qu'il est forfait, et que les joueurs sont complètement concentrés, ils savent que ils doivent prendre leur responsabilité, ils l'ont fait aujourd'hui. Un joueur comme Ismaël Assar, par exemple,
bon match, Ismaël Assar.
Il a pris ses responsabilités.
Il a mis le feu à la défense équatorienne, lui.
Ben, parce qu'il a été critiqué au Sénégal, parce que on trouvait qu'il jouait comme s'il avait le frein à main. Un peu. Et là, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités et même il a pris le penalty alors que tout le monde était en train de le critiquer. Donc, bravo à lui.
Et ça. Et il l'a très bien tiré en plus.
Il a magnifiquement bien tiré. C'est inarrêtable.
Il n'a pas flippé en mettant je vais mettre une sacoche et on voit ce qui se passe. Il l'a placé, il a été posé, calme. Il a
parfait,
bien mis.
Parfait. Mais ça dépend. Ça vient.
Vas-y.
Ça vient aussi du fait que Aliou Cissé a mis un milieu de terrain avec des gens qui sont un peu plus joueurs, parce que quand tu mets Pape Gueye, il peut te trouver des attaquants avec de la justesse dans des passes. Il fait des passes et puis il court dans l'espace pour recevoir un ballon ou bien pour ouvrir un espace pour l'attaquant qui vient de partir en emmenant un défenseur. Donc quand c'est des choses comme ça et qu'il y a du mouvement, il y a le petit Illiman Ndiaye qui est rentré, qui depuis qu'il est rentré face au Qatar et que tout le monde l'attendait, il contrôle le ballon, il ose attaquer les défenseurs, alors que.
C'est souvent, comme tu dis, une affaire de mouvement, d'oser jouer et d'être un petit peu ambitieux.
Ouais.
Souvent, il y a une espèce de prudence exagérée, de pas vouloir se livrer. C'est souvent ce qu'on voit, même, je dirais presque même qu'il y a une tendance un peu historique des équipes africaines en Coupe d'Europe en Coupe du Monde, pardon, à être un peu timorées de ce côté, à pas se lâcher complètement, sauf s'il y a un leader qui va leur dire, bah, comme Mané qui vous manque, bon, ben, on y va ou on n'y va pas? Qu'est-ce qu'on fait? On joue, on n'est pas là juste pour,
pour regarder ou pour défendre. Autre stratégie, c'est quand elles sont dos au mur qu'elles se réveillent. Regarde le Cameroun l'autre jour.
Oui,
ils font balader, puis là, tout à coup, il y a quand même un déclic.
Mais forcément, la question se posera, qu'est-ce que tu vas faire contre l'Angleterre?
Tu
n'as pas les moyens d'aller faire le jeu contre eux, donc tu vas...
Tu vas les attendre.
Tu vas attendre, tu vas espérer.
Si vous voulez prendre la parole, allez-y les gars. Hein. Ou alors vous avez un porte-parole, je sais pas.
Quand il s'agit de foot, je commence à parler pendant des heures. Mais oui, je pense que contre l'Angleterre, Aliou Cissé va peut-être être tenté de les attendre, mais je pense pas qu'il faut mettre un milieu de trois bétonneurs, parce que sinon tu vas pas créer de jeu. Si tu crées pas de jeu, tu vas pas marquer, parce que il faut quelqu'un qui puisse faire une passe juste vers l'avant avec lancer une flèche comme Ismaël Assar, parce que l'Angleterre sera assez haut, je pense.
Oui, ils vont garder le ballon.
On va leur laisser le ballon avec plaisir. On va faire une Giroud.
Mais contre l'Angleterre, il faut que tu aies un Edouard Mendy stratosphérique.
Ouais.
Il faut que tu aies Koulibaly qui s'occupe un peu d'Harry Kane
Ligue des Champions. Un problème.
Voilà. En fait, il faut que tu aies tout le monde à 110%. En fait.
Les côtés défensifs me font un peu peur au Sénégal.
Mais Jacob, s'il fait une bonne rentrée.
Oui, d'accord.
Rentrée dans cette Coupe du Monde.
Ça va être du haut niveau sur le côté.
Du Foden, du Sterling, du Rashford, c'est autre chose que les attaquants équatoriens.
C'est vrai, mais si je puis me permettre, en 2002, c'était du Thierry Henry, du Trezeguet, du Desailly.
Oui, mais alors je vais te dire, moi je pense que l'équipe de 2002 est largement meilleure que celle-là.
Au niveau de leadership, il y avait plus de caractère dans l'équipe.
Mais ça compte beaucoup. Et en face, t'as une équipe qui s'est liquéfiée, qui avait pas la tête.
En fait, tout ce que je veux dire, c'est que dans le foot, on sait jamais. Tout est possible. L'Angleterre, sur le papier, est supérieure au Sénégal, on le sait. Mais
toi, tu veux ton France-Sénégal en quart de finale, toi?
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? France-Sénégal en quart de finale, pourquoi pas? C'est quelque chose que je pense que les Français veulent.
Mais si c'était Sénégal-Arabie Saoudite aussi. Non, alors le tout est possible à une limite. Voilà. Faut arrêter quand même.
Ouais. Ça peut être aussi Argentine-Sénégal.
Aussi. Je vois pas comment le Sénégal peut finir.
Juste Massé Amadou, là. J'ai une question à vous poser. Bemba Dieng, il est pas meilleur que Boulaïa?
Non. Tu me poses la question. Je suis Marseillais, donc.
Tiens.
Dieng, je suis fan de.
Kevin n'est pas d'accord. Pourquoi?
Non, mais moi, j'aime bien Bemba Dieng. Je comprends pas qu'il joue. Pourquoi il joue pas plus? Il adore Boulaïa ou.
Il a pas eu beaucoup de temps de jeu en club, etc. Donc peut-être que ça joue au niveau du coach.
Moi, Gilbert, je t'ai déjà dit, hein, Bemba Dieng, c'est un joueur qui a de la qualité, mais c'est pas un joueur qui est prêt aujourd'hui à jouer au plus haut niveau. Hein. Ni avec l'OM, ni avec le Sénégal, pour moi.
Le peu qu'il a joué avec l'OM depuis le début de la saison, il a été bon. Hein.
Moi, je trouve, moi, par exemple, je trouve qu'à Strasbourg, il est pas exceptionnel. Hein. Je suis désolé.
Ah, j'y étais, il a fait un très bon match, je te le dis.
Il est encore perfectible, mais après,
bien sûr, il a beaucoup de points à perfectionner avant d'être prêt pour le très haut niveau.
Je pense que dans son profil en sortie de banc, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien à cette équipe du Sénégal. Encore plus dans un match face à l'Angleterre où avec Maguire et Stones. Alors sur le papier, on voit Maguire, on entend toutes les moqueries, mais Maguire, il fait un gros début de Coupe du Monde. Mais
Ismaïla Sarr, il peut lui mettre la tête à l'envers, hein, Maguire
aussi. Mais je pense que sur ce match-là spécifiquement de l'Angleterre, Bamba Dieng, c'est un joueur qui, en sortie de banc, peut faire très très mal. Et moi, il y a un joueur dont on n'a pas encore cité le nom, mais qui me plaît beaucoup, qui fait ses débuts depuis quelques semaines en sélection, c'est Pathé Cisse au milieu de terrain. C'est un profil un petit peu différent de Cheikhou Kouyaté. Alors, Kouyaté, ça reste le taulier parce qu'il a une prestance, il apporte aussi ses nombreuses années, quasiment une décennie, je pense, sous le maillot du Sénégal. Mais Pathé Cisse, c'est un joueur qui m'a agréablement surpris. Nampalis Mendy, il y a vraiment pas mal d'interrogations finalement sur le 11 de départ d'Aliou Cissé pour ce match face à l'Angleterre. Et finalement, ce match face à l'Équateur lui offre pas mal de choix qu'il aurait pu ne pas avoir s'il n'avait pas fait ses choix aujourd'hui.
C'est vrai que comparé aux autres années, là, pour une fois, on n'a pas une équipe type. À l'UCC, il cherche encore l'équipe type et depuis le début de la Coupe du Monde, on a découvert Jacobs, Illeman Diaye, Pathé Cisse et du coup, aujourd'hui, en tout cas, l'équipe qu'il a mise contre l'Équateur, vraiment, tout le peuple sénégalais était vraiment très content qu'il fasse évoluer ces jeunes qui sont en plus la relève des prochaines années.
Pathé Cisse, précisons-le, qui est milieu défensif.
Et qui est frère de Salih Cisse.
Ce qui est logique.
Oui.
Ce qui est logique.
Oui.
Vu son nom.
Oui.
Logo trop sort de ce cran. pas mal.
Le Didier Six, il jouait ailier, lui, par exemple. C'était anormal, quand même. Quand tu réfléchis. Hamza, tu veux rajouter un truc, là, sur le Sénégal? Sur le match du jour
Non, sur le match du jour, effectivement, je rejoins Daniel. J'ai été agréablement surpris par leur entame, la prise de responsabilité. Après, ça explique aussi, enfin, ça peut être expliqué par ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de devoir aller chercher cette victoire. Collectivement, il y a une équipe assez solide. Les performances individuelles, les joueurs ont répondu présents. La ligne défensive extrêmement performante. Illman Diaye, effectivement, pour une première titularisation, il a pas eu peur. Enfin, c'est un profil, je trouve, Illman Diaye. Que le Sénégal n'a pas.
Il n'a pas non plus été.
Mais c'est un profil différent. Je trouve que c'est un profil vraiment différent qu'un Crépin Diatta qui était remplaçant qu'on n'a pas vu du coup aujourd'hui. Que même un Ismaïla Sarr qui, je me souviens des émissions lors de la Coupe d'Afrique des Nations où je caricaturais volontairement et je disais le plan de jeu d'Aliou Cissé, c'est le plan A. Tu donnes le ballon à Sadio Mané et tu pries. Et si Sadio Mané est pris, c'est le plan B. Tu donnes le ballon à Ismaïla Sarr et tu pries. Ismaïla Sarr, il se trouve qu'il est arrivé blessé à la CAN et qu'il a fait ses débuts en quart de finale. Là, on se retrouve dans une situation où t'as pas Sadio Mané et le fait d'avoir un joueur comme Illman Diaye qui est assez performant dans le déséquilibre, ça peut être une carte offensive supplémentaire et différente pour Aliou Cissé.
Bon. Tu veux rajouter un truc
pour Non, j'allais dire juste sur Illman Diaye, c'est sûr qu'il ajoute un profil différent parce que, en plus, ce qu'il fait, dos au but, il arrive à se retourner, à garder le ballon, à permettre à son bloc de remonter un peu, décaler sur le côté, aller provoquer, faire des passements de jambes, essayer de rentrer dans la surface. Je pense que quand il est rentré contre le Qatar, l'action qu'il a faite, personne ne l'avait encore faite au Sénégal. Prendre le ballon comme ça, aller défier l'adversaire. Et ça apporte de la confiance en l'équipe. Et c'est pour ça qu'il est adoubé par tout le monde au Sénégal.
Alors, on a vu aussi le show de la Gédiouf après le match, sur le terrain, évidemment. Et il n'a pas pu s'empêcher, la Gédiouf. Et puis, un hommage de Koulibaly à Pape Bouba Diop, qui est disparu un 29 novembre.
Oui.
Donc,
il y a deux ans aujourd'hui.
En
fait, il y a un groupe de supporters sénégalais qui s'appelle Ultra 221 qui a pris l'initiative d'imprimer des portraits comme ça pour le montrer. Après, les joueurs ont pu montrer ça à la fin. Un grand hommage à Pape Bouba Diop qu'on n'oublie pas et qui est un très bon souvenir pour nous et pour vous.
Moi, pour vous. si, c'est un moment d'histoire du foot. Et nous, ce qu'on aime, c'est les moments d'histoire du foot.
Je vais vous raconter une histoire quand même. Parce qu'en 2002, moi, j'étais en Corée, au Japon, quand la France est éliminée. T'as toute l'équipe des RMC là, 20 personnes. Je me dis, merde, on est quand même pas bien. Éliminé au premier tour, qu'est-ce qu'on fait? Et là, notre chef de l'époque, il dit, vous savez quoi? on va être à fond pour le Sénégal. Allez, go pour le Sénégal, Pierre. Là, tout le monde, le Sénégal, les conférences de presse, on était partout.
On l'a senti ça. On l'a senti ça depuis Dakar. Parce qu'en 2002, c'était à Dakar. On l'a senti, hein. On l'a senti, ce support-là. Et même de Thierry Gilardi, paix à son âme, on l'a senti, tout ce support-là. Et ça nous a fait super plaisir.
Bon, ben voilà, c'était logique, en fait. Bah
après, la plupart des joueurs évoluent en plus en Ligue 1.
Oui, bah c'est vrai, on les connaissait. Vraiment, et puis bon, ouais, francophone, c'était facile. Il y avait Metsu à l'époque.
Oui.
Alors toi, t'es youtubeur, toi.
Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 ans, je suis allé en Russie pour voir la Coupe du Monde, ma première Coupe du Monde, parce que c'était un rêve de gamin depuis que je suis enfant, que mon père m'achète des petits drapeaux dans les stades et tout. Et j'ai vécu une aventure incroyable, parce que j'avais des réticences à aller en Russie. Je me suis dit, c'est comme la Russie, comme on dit pour le Qatar, par exemple. Et quand je suis rentré, j'avais envie de partager ce que j'avais vu avec les gens. Et j'ai écrit un article là-dessus, ça s'appelle, je l'ai appelé l'épopée russe. Et ça a fait, ça a eu un certain engouement et tout. Et ensuite, j'ai créé un blog et j'ai mis cet article dessus. Et je voulais parler aux gens de moments historiques dans le foot. J'ai écrit un article sur la honte à Gijón, le match entre l'Allemagne et puis l'Autriche, tout ça. Et je voulais faire des vidéos que ce soit plus interactif, parce que les gens, ils vont pas forcément lire des articles kilométriques. J'en ai écrit un sur Neymar aussi et tout. Et j'ai Google comment mettre ma vidéo sur mon blog. Et Google m'a proposé, tu peux faire une vidéo sur YouTube et puis la mettre sur ton blog. Et quand j'ai fait la vidéo sur YouTube, je me suis dit, bah tiens, j'ai fait une vidéo YouTube, mais je vais rester sur YouTube. Et c'était il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il y a 31 000 personnes dessus qui me suivent et que je salue tous.
Alors comment ça s'appelle ?
11 pour tous.
Très bien.
Et 11 pour tous, parce que là, tout à l'heure, vous savez, me demande pourquoi 11 pour tous. C'est parce qu'en fait, c'est 11 joueurs qui sont sur le terrain et qui jouent pour tout le monde, quoi. Parce que il y a 60 000 âmes, 80 000 âmes ou 1 million d'âmes qui battent. Il y a 1 million d'âmes qui battent, qui les poussent ensemble à l'unisson pour un but commun. Et donc, c'est 11 joueurs qui représente tout le monde, quoi. Et c'est de là que ça vient, 11 pour tous.
Très bien, bah voilà. On connaît donc la chaîne YouTube de Moustapha Konaté. Les gars, on va parler un peu des Pays-Bas. Vous pouvez rester, hein, si vous voulez, vous êtes chez vous. Johan Crochet nous rejoint. Salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
On va les laisser entre Hollandais avec Kevin.
Oui, parce qu'on n'a rien vu, nous. Hein, comme on était au match du Sénégal et en même temps.
T'inquiète pas, on n'a pas vu grand-chose non plus.
La dernière fois, vous n'étiez pas d'accord. On va voir si cette fois, vous l'êtes.
Je pense qu'on va l'être. Et ouais, moi, c'est un match dans la lignée des deux premiers, c'est-à-dire que le résultat est bon, mais sur la prestation, il y a beaucoup de choses à redire. Et je vais juste vous citer ce qu'a dit Marciano Vink, qui est un ancien joueur de l'Ajax et du PSV années 80-90 sur le plateau d'ESPN ce soir. Il a dit les résultats sont bons, le jeu est à pleurer. Voilà, ça résume ce que sont les Pays-Bas depuis le début de cette Coupe du Monde.
Et aux Pays-Bas, on n'aime pas dire ça, et ça plaît pas, parce que le jeu, c'est important.
Ah non, ça plaît pas du tout, et les éditos s'enchaînent pour parler du niveau de jeu de cette équipe. On avait même un édito après le match contre l'Équateur, appelant Van Gaal, et ça, c'est le fameux toujours grand débat aux Pays-Bas, à lâcher son 3-5-2 et à revenir à un traditionnel 4-3-3, parce qu'on estime que la représentation nationale doit jouer avec ce système ô combien important dans l'histoire de ce pays-là. Mais plus qu'un problème de système, c'est un problème de mouvement et de vitesse. Moi, je trouve que c'est très inquiétant, parce que je vois pas de progrès à ce niveau-là. Parce que le premier match, tu peux te dire, bon, c'est peut-être quelque chose physiquement, ou ils ont besoin de monter un petit peu en puissance, etc. Mais là, avec un delta de 10 jours entre le premier et le troisième match, il y a pas de progrès. Et il va falloir faire attention, parce que les États-Unis ont un milieu de terrain très dynamique, très puissant, très costaud, avec des joueurs souvent en mouvement qui viennent t'agresser, etc. Il va falloir être en mesure de répondre à ça. Et pour le moment, à chaque fois qu'ils sont tombés face à des adversaires qui, par séquence, c'était souvent l'Équateur, un petit peu le Sénégal, un petit peu le Qatar, même aujourd'hui, au milieu de terrain notamment, qui mettait un peu de vitesse dans les transmissions et qui prenait les espaces. Il y avait des trous béants au milieu de terrain, il y avait des gros problèmes de repli, il y avait un contre-pressing qui marchait pas. C'est pas très bon, hein. Alors les résultats, ok, ils terminent premier, très bien. La poule était quand même pas si compliquée que ça. Mais en termes de qualité du jeu proposé par les hommes de Louis van Gaal, on n'est pas au niveau, moi je trouve, d'une Coupe du Monde.
Écoute, Kevin, t'es d'accord?
Ouais, sur les deux premiers matchs,
on va dire que je faisais preuve d'un peu d'indulgence parce que moi je trouvais quand même que la poule pour le coup elle était quand même très correcte avec le Sénégal même sans Sadio Mané et l'Équateur. Par contre aujourd'hui ils ont joué contre une équipe de 4e division même peut-être néerlandaise, elle est peut-être pas, mais de 3e division néerlandaise en la personne du Qatar et ils ont vraiment joué comme une équipe de faible niveau, de faible intensité. Alors oui ils gagnent 2-0 parce qu'il y a personne en face, mais franchement méconnaissable certains joueurs dont notamment bon Memphis, même s'il revient de blessure, donc encore une fois on peut peut-être faire preuve d'indulgence pour lui, il a pas beaucoup joué cette saison, il revient de blessure, mais voilà, moi je serais pas indulgent avec des joueurs comme Daley Blind ou Davy Klaassen qui pour moi n'ont absolument rien à faire dans une équipe qui veut gagner la Coupe du Monde. C'est des bons joueurs peut-être pour être remplaçants à l'Ajax, mais avec la sélection néerlandaise ce 3-5-2 il ressemble à rien. Il y a aucun joueur qui est vraiment à l'aise dans ce 3-5-2. Nathan Aké, ça lui fait trop de terrain à couvrir, il est trop lent. Il y a que Virgil van Dijk qui pour le coup avait été très critiqué, mais je l'ai trouvé en patron ce soir, il a pas mal rameuté les troupes, même si il y a pas vraiment de répondant. Jurrien Timber, oui, il peut jouer un peu partout parce qu'il a des cannes, mais à part Dumfries qui est plutôt à l'aise dans ce rôle, sinon tous les autres, c'est des joueurs qui ont été formés, qui ont été biberonnés au 4-3-3, et même si ça a marché pour Van Gaal en 2014 avec des joueurs exceptionnels, là avec des joueurs moyens plus voire moyens pour certains, mais ça passera pas. Ils vont peut-être passer les huitièmes face aux États-Unis, mais derrière, s'ils tombent contre une grosse équipe, il va vraiment falloir hausser.
C'est quoi le tableau des Pays-Bas pour le quart?
J'ai pas vu le quart, je sais que.
C'est premier du groupe C contre deuxième du groupe D. Donc, premier du groupe C, c'est Argentine, Arabie Saoudite ou Pologne.
Voilà.
Ouais, mais ça croise avec qui là?
Ça croise avec le Danemark. Normalement.
Peut-être avec le Danemark, peut-être. Ouais. Si la France termine première, le Danemark deuxième ou l'Australie.
Ouais, bon, ça pourrait passer avec un peu de chance.
C'est l'encart.
Le pire, c'est que ça pourrait passer même contre cette Argentine.
Argentine ou Pologne.
Mais. Non, mais il va falloir. Alors, ils en sont conscients et ça, c'est
oui, donc c'est plutôt le vainqueur de Argentine-Danemark. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Ouais, donc les Pays-Bas joueraient en quart contre le vainqueur d'Argentine-Danemark. Donc ça pourrait être un Argentine-Pays-Bas en quart.
Ça pourrait être ça.
Enfin bref, voilà, c'est ça. D'accord.
Ah, ouais. La revanche du Stade Vélodrome 98, demi-finale.
Il n'y aura pas Bergkamp, par contre, cette fois-ci. Ni les transversales.
Quart de finale.
Il n'y aurait pas Batigol.
Non plus. Il n'y aurait pas grand monde.
Non, c'est ça. Mais oui, Van Dijk, après le match, disait on a encore beaucoup de marge de progression. Et je suis d'accord, c'est même plus des marges. Là, c'est des boulevards de progression. Il va falloir vraiment. Moi, je trouve que. T'as une équipe qui joue dans un fauteuil sans avoir les qualités d'une équipe qui joue dans un fauteuil.
Exactement.
C'est un peu compliqué d'être aussi lent.
Et heureusement qu'il y a Cody Gakpo.
Ouais. Et puis très sincèrement, hein, Gakpo, c'est je crois 3 tirs cadrés, 3 buts.
C'est ça.
Voilà, il se crée pas non plus énormément d'occasions. Il est toujours bien là où il faut, etc. Mais si on analyse même les buts, etc. Le but contre l'Équateur, c'est une frappe du gauche, un petit exploit quasiment vu l'angle de frappe. Le but contre le Sénégal, c'est une mauvaise sortie d'Edouard Mendy. Aujourd'hui, il y a encore quelques très grandes largesses défensives de l'adversaire. Donc, moi, je trouve qu'il peine à se créer des occasions. D'ailleurs, avant ce match-là contre le Qatar, c'était la deuxième pire équipe en termes d'expected goals dans ce mondial. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de plus petites équipes avec des joueurs moins cotés, avec moins d'expérience, avec moins de talent, qui étaient capables de se créer beaucoup plus d'occasions. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce fameux débat sur le 3-5-2. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs à vocation défensive, ou beaucoup de joueurs pour pallier à d'éventuelles transitions de l'adversaire. Mais quand il s'agit de la création, si on enlève Frenkie de Jong au milieu de terrain, c'est le désert. Et après, t'as le trident offensif et tu leur dis, débrouille-toi. Parce que Blind, il est invisible depuis le début de cette Coupe du Monde. Dumfries, il est catastrophique depuis le début de la Coupe du Monde. Et c'est simple, Dumfries, sur des 1-2, il suit plus l'eau, il suit plus
son adversaire. Dieu sait si on attendait de l'animation côté droit avec lui, quand même.
Bah ouais. Non, mais là, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, depuis le début de la Coupe du Monde, les 1-2 sur son côté, il ne suit aucunement l'adversaire. Il a décidé, je cours pas. Donc, non, c'est très compliqué.
Merci, Johan.
Et juste sur les revanches de l'éventuelle Argentine-Pays-Bas, on a parlé de celui-là parce qu'il est mythique grâce à certains joueurs, mais il y en a eu un beaucoup plus récent en 2014 en demi-finale.
C'est vrai. Non, mais je suis du Vélodrome en 98, j'y étais, c'est pour ça que je m'en souviens très bien.
Très bien.
Ça devait être un match incroyable, ça.
Bon, tu devais pas être loin en 2014 de celui-là.
On était en studio à Paris.
Ouais. 2014, c'était
pas là. Oui, parce qu'on était rentré après la France. 2014. Oui. Dans quelques instants, justement, les Bleus et la Tunisie. Hamza sera là, Oussem Loussaïef également, qui a par ailleurs assisté aujourd'hui à un événement assez étonnant ici à Doha. Il va nous raconter ça dans quelques minutes. Moustapha, Amadou, Mass, on vous remercie, les gars.
Merci, les gars. Ça fait super plaisir d'être là et de vous rencontrer depuis 2008 que je vous écoute. Ça fait super plaisir.
Merci
et
à toi.
Dédicace à tous les gars qui me supportent. Je ne peux pas tous vous citer, les gars.
Ah, et merci pour votre fidélité.
Moi,
c'est
moi j'ai quand même une chose à dire.
Oui, Amadou.
On se retrouve en quart de finale.
Amadou. Rendez-vous,
on l'espère. Hein.
Merci.
Mais tu pourras revenir, on peut revenir là. Hein. S'il y a carte finale, alors, hein, ça va faire du France-Sénégal tous les soirs pendant quelques jours. Je vous le dis.
C'est bon, c'est bon.
Allez, dans quelques instants, l'équipe de France, justement, la compo pour demain, notamment dans l'after. À tout de suite.